Dans le livre des Actes aux Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 1. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Et puis à partir du verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, les Samaritains, qui leur annonçaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. On va déjà s'arrêter là dans un premier temps et essayer de tirer quelques enseignements de cette première campagne d'évangélisation de l'Église primitive. Est utile à toute chose, elle est utile à tout pour nous enseigner, et notamment aussi dans le domaine de l'évangélisation. Le premier peut-être enseignement qu'on peut tirer de ce passage, c'est que cette grande campagne d'évangélisation, parce qu'ils sont partis partout dans la région, premièrement, elle n'a pas été faite, elle n'a pas été réalisée par les ministères en place. Effectivement, quand on lit ce passage, on l'a vu, les apôtres, lors de la persécution, sont restés à Jérusalem. Ce sont tous les autres, tous les chrétiens, entre guillemets tous les laïcs, même si ce n'est pas un terme adapté, qui eux se sont dispersés et ont annoncé l'évangile. Voyez verset 1, « Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. » Je dirais que ce sont les anonymes qui ont annoncé l'évangile. Peut-être y a-t-il des anonymes parmi nous? Peut-être y a-t-il certains dont le prénom ou le nom n'est pas bien connu? Ou même le visage n'est pas bien connu? Ou ce qu'ils font n'est pas forcément bien connu? Dieu aime à travailler avec des anonymes. Amen. Deuxième enseignement qu'on peut tirer, c'est que cette première campagne d'évangélisation n'est pas née d'une stratégie humaine. Elle ne reposait pas sur des méthodes de croissance, de communication, vous savez, en vue de l'expansion du royaume de Dieu. Mais elle a été engendrée, elle a été provoquée par le feu de la persécution. Donc elle n'est pas née du concept de l'homme, des méthodes de l'homme, mais elle a été provoquée par un élément extérieur, la persécution. Effectivement, il y a d'abord eu le meurtre d'Étienne, le premier martyr de l'Église chrétienne, acte 7, versets 54 à 60. Quelle mort glorieuse! Et puis ensuite, la grande persécution que les chrétiens de Jérusalem ont vécue, acte 8, versets 1 à 3, et notamment sous l'instigation d'un jeune homme, Saul de Tarse, qui allait dans les maisons, qui ravageait l'église, qui cherchait les chrétiens pour les mettre en prison. Donc l'église a connu un temps de persécution terrible, il y a eu un meurtre, et des gens qui ont été arrachés, certainement battus, mis en prison, dans le cœur même de l'Église. Ce qu'on peut voir, c'est que cette persécution a provoqué un éparpillement des chrétiens dans toutes les régions environnantes, sauf les apôtres. En fait, on aurait pu se dire que ça y est, c'est la fin, et probablement c'était le projet de Saul de Tarse et des religieux de l'époque qui voulaient mettre fin à cette secte qu'est l'Église chrétienne. Mais en fait, ça a eu tout l'effet inverse, ça a eu l'effet d'une bombe, mais d'une bombe spirituelle, d'un détonateur. Ça a été un déclic qui les a fait sortir de leur zone de confort. C'était une belle zone de confort dans laquelle il se trouvait. Ce qu'il vivait, quand on lit le début des Actes des Apôtres, il vivait des temps extraordinaires, des temps merveilleux. Mais c'était leur zone de confort. Et nous avons chacun nos zones de confort, qui ne sont pas des zones de péché. Loin s'en faut, là, il n'est pas question de ça. Mais qui sont nos zones de sécurité, dans lesquelles on est bien, on a nos points, nos habitudes, nos conceptions. Et on travaille dans cette zone de confort. Et parfois, Dieu est obligé d'utiliser certains moyens pour nous faire sortir de nos zones de confort. Pour entrer dans son projet, notamment dans le projet de l'évangélisation que Dieu voulait pour son Église. On le voit dans Marc 1, verset 35, où après avoir accompli toutes sortes de signes et de miracles, Jésus va passer un temps dans la prière, et puis les disciples vont venir le voir et vont lui dire « Tous te cherchent !» Parce qu'ils veulent encore cette ville. Ils veulent encore t'entendre, ils veulent encore te voir. Et Jésus va dire « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. » Et les disciples auraient pu dire « Mais ils viennent juste d'entendre l'évangile. Ils veulent profiter de ton ministère. » Non, Jésus dit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines. » Petite parenthèse, combien de bourgades voisines autour de nous ? Combien de bourgades voisines qui ne sont pas forcément d'ailleurs des bourgades, qui peuvent mettre même des villes autour de là où tu habites. Allons ailleurs, que ça puisse travailler nos cœurs. Allons ailleurs, dans les bourgades voisines. Jésus dit, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Le troisième point qu'on peut voir, c'est les vertus bienfaisantes, parfois, de l'épreuve dans la vie du chrétien. Il est dit que ceux qui avaient été dispersés allèrent partout et ils annoncèrent la bonne nouvelle. Loin d'être un frein, les épreuves de la vie, les persécutions, les oppositions, les incompréhensions n'ont pas vocation à nous stopper. Elles n'ont pas vocation à nous décourager, à nous arrêter, mais tout au contraire, elles ont vocation à nous recentrer sur le cœur de Dieu et sur ce qui est important à ses yeux. Elles ont vocation à réajuster nos priorités sur celles de Dieu, notamment par rapport au salut des âmes, qui est quand même la grande priorité de Dieu. Et peut-être, mon frère, tu vis une persécution, une incompréhension, une épreuve, quelle qu'elle soit. Et Dieu ne veut pas forcément cette épreuve, et cette épreuve n'est pas une fin en soi, mais dans cette épreuve que tu vis. Et je dirais encore plus, mais pas seulement, mais encore plus si c'est pour Christ. Pose-toi la question de tes priorités. Peut-être Dieu veut faire éliminer certaines choses. Peut-être quelqu'un qui avait des aptitudes physiques, se trouve à un moment donné bloqué physiquement et ne peut plus faire ce qu'il faisait dans le domaine sportif et autres. Dieu peut guérir, c'est sûr. Mais au travers de ça, est-ce que Dieu n'a pas aussi parfois peut-être un autre projet ou en tous les cas ne veut pas te parler et te dire, mais tu vois, cette passion que tu as, tout ce temps que tu passes, toute cette énergie que tu passes, moi je veux peut-être qu'elle soit recentrée sur mes priorités. Ce qui nous arrive doit servir aussi à nous réévaluer, à nous réajuster. On a besoin de sonder nos cœurs. Comme David a pu le dire, « Sonde mon cœur, ô Dieu, regarde si je suis sur une bonne voie, regarde si je marche sur une bonne voie, et conduis-moi sur le chemin de la vérité. » On est sur notre zone de confort. Et nous poser la question, est-ce que c'est le terrain de Dieu, notre zone de confort ? Certainement, bien sûr, le diable était derrière ça, mais il fait toujours une œuvre qui le trompe. Et nous ne pouvons pas nous servir des épreuves comme prétexte pour nous replier sur nous-mêmes. Ce n'est pas le but de Dieu. Maintenant, que penser de la position de l'Église primitive qui vit sa foi, sa piété, mais finalement recroquevillée sur elle-même? Quand on lit le début des Actes des Apôtres, ils étaient ensemble, ils vivaient des temps merveilleux, ensemble, et la gloire de Dieu se manifestait au milieu d'eux. Mais ils semblent comme indifférents à la perdition des nations alentour. Et ils semblent sourds aussi aux dernières paroles, aux dernières recommandations de Jésus, qui leur a dit « Allez par tout le monde ». Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le message de Jésus est clair. Acte 1:8, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et eux, ils restent à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec cette église finalement ? On peut reprocher aux premiers chrétiens de ne pas s'être préoccupés de l'évangélisation des païens. Mais c'est important de remettre ce qu'ils ont vécu et de tenir compte de leur contexte. Premièrement, ils pensaient que Jésus allait revenir quasiment immédiatement. Donc ils étaient là ensemble. Ils pensaient que Jésus allait les prendre tout de suite. Deuxièmement, ils vivaient des temps aussi extraordinaires que nouveaux. Pour eux, c'était complètement nouveau, un bouleversement complet. À partir de acte 2, le baptême dans le Saint-Esprit, les langues de feu, le miracle des conversions par milliers, ce temps qui passait, c'était extraordinaire. Et ils désiraient le prolonger le plus longtemps possible. Est-ce qu'on peut leur faire ce reproche ? Est-ce qu'on peut leur faire ce reproche ? Vous savez, quand Pierre est sur la montagne de la Transfiguration, dressons trois tentes. Il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes. Pierre aurait voulu rester là, sur la montagne de la Transfiguration, être enlevé au ciel. Pendant ce temps, il y avait des besoins qui étaient en bas. Et puis pour ceux qui ont peut-être passé leur bac de français ou autre, vous savez ce que dit Lamartine dans son poème sur le lac ? « Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. » Et humainement parlant, quand vous passez des moments merveilleux en vacances, vous n'avez pas envie forcément de revenir. Il y a le travail qui revient, la routine. Et encore plus, quand on passe des temps extraordinaires avec le Seigneur, on n'a pas envie de partir. Je me souviens de la conversion de ce frère qui est évangéliste maintenant, j'ai plus son nom, qui parcourt le monde et qui était karatéka. Peut-être quelqu'un le... Non, bon, peu importe. Et ce frère, il raconte, donc sa maman était médium, était sorcière. Franck Alexandre. Et il raconte que quand il est venu à l'église, il est venu avec plusieurs de ses amis qui étaient là, des gros bras, et il pensait régler le compte du pasteur, du petit pasteur. Et puis il a prêché l'évangile, et puis Dieu a agi, et ce garçon s'est trouvé là prostré par terre. Par l'action de Dieu, il a pleuré des heures et des heures. Et après, quand le pasteur est venu le voir, le petit pasteur, mais d'un coup c'est lui qui était tout petit par rapport à ce petit pasteur, ben, il a dit, mais moi je veux rester ici. Je veux rester dans cette maison de prière. J'ai pas envie de partir, de retourner ailleurs. Puis il lui a dit, bah oui, mais ta vie, il faut que tu y ailles. C'est ta vie, et puis t'as ta famille. Et il est retourné, il a fait un travail extraordinaire dans sa famille. Et maintenant, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc est-ce qu'on peut leur reprocher ça par rapport à ce qu'ils ont vécu ? Troisième point par rapport à ça, c'est que le salut n'était alors réservé quasiment pratiquement qu'aux Juifs. Lévitique 18:5. Dieu parlant à Moïse, il dira, dis-leur aux enfants d'Israël, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc ils n'avaient pas compris que désormais en Jésus, le salut devenait accessible aussi aux païens. Pourtant Jésus leur a dit, mais ils ne comprenaient pas. Quand Paul dira dans Romains 10, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qu'il invoque. Celui qui invoquera, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'il soit juif ou qu'il soit grec, ça veut dire qu'il soit juif ou qu'il soit païen, ce que nous sommes pour la plupart d'entre nous. Mais c'était au-delà de leur entendement. Donc on va dire que le fait qu'ils soient restés entre eux était plus le fait d'une incompréhension par rapport au plan divin que d'un acte délibéré de désobéissance ou même une paresse ou une tiédeur spirituelle. J'en veux pour témoignage leur activité, finalement, qui était incessante, leur zèle à se réunir autour de la parole de Dieu, autour de la prière, dans la communion fraternelle, continuellement et certainement témoignaient-ils autour d'eux, aux Juifs qui étaient là. Mais simplement, ils n'avaient pas cette vision. C'est un peu plus loin, on voit Pierre, vous savez, sur la montagne de la Transfiguration, pourtant l'eau est passée sous les ponts. Mais Pierre, y a-t-il plus zélé que Pierre parmi les disciples ? Et pourtant, lui, il ne comprend pas quand, vous savez, il est sur le toit de cette terrasse, il attend le repas, Et puis il a cette vision avec cette grande nappe, et puis des oiseaux impurs, toutes sortes de bêtes impures, de reptiles autres qui viennent se poser. Et cette voix qui lui dit, mange, tu es mange, mais il dit, mais non, je vais rien manger d'impur. Et à plusieurs reprises, et il ne comprend pas. Et là, des gens qui viennent de chez Corneille, cet homme était un centenier, un soldat romain, qui lui vient donc, et dit, bah oui, parce que Dieu lui avait montré, il y va. Et puis il va dire, Dieu m'a appris à ne pas regarder comme impur ce que Dieu regarde comme pur. Et il va comprendre, et Dieu va confirmer sa parole par des conversions, par des miracles, par le baptême dans le Saint-Esprit, que Dieu voulait aussi sauver les non-juifs, les païens, dont nous sommes aujourd'hui. Que nous sommes aujourd'hui, et nous sommes le fruit de cela. Il y a eu un moment donné dans l'Église primitive, ça a été chaud quand vous lisez, je crois que c'est acte 15, le Concile de Jérusalem, où là, ça a bien failli basculer. On a voulu imposer, ça a failli aller dans le sens d'imposer aux non-juifs, de chrétiens qui se convertissaient, de continuer d'observer la loi, que le salut n'était plus seulement par la foi en Jésus, mais aussi quelque part par les œuvres de la loi. Et heureusement, les apôtres ont tenu ferme. Ils ont pu aussi être surpris de la recommandation de Jésus, de se souvenir de cette recommandation de Jésus dans Marc 10 aux disciples, il les dit. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus leur a dit, sur la terre, ciblez plutôt les juifs. Et même son attitude vis-à-vis de la femme cananéenne, syrophénicienne, cette femme dont la fille était tourmentée par un esprit impur, qui s'approche, suppliant Jésus d'intervenir parce qu'elle savait que Jésus était capable et avait fait, était capable de chasser les démons. Et elle s'approche, et il dit qu'il ne va rien lui répondre. Et les disciples vont en mettre une couche en s'approchant de Jésus et dit, mais fais-la partir, elle crie derrière nous, elle nous fatigue, retire-la. Ça n'est qu'une femme, et en plus une femme syrophénicienne. Elle n'a rien à voir avec le salut de Dieu. Et Jésus va avoir une réflexion surprenante, d'abord, semble-t-il, comme un mépris. Puis ensuite, il va dire, il n'est pas bon de prendre le pain de la table des maîtres, il n'est pas bon de prendre le pain de la table des maîtres par rapport aux juifs. Et cette femme va avoir cette réflexion extraordinaire, oui, mais les petits chiens, ils prennent les miettes qui tombent de la table. Et Jésus va louer cette femme-là, et sa foi surtout. Bien évidemment, Jésus a tout sauf une attitude discriminante, ce n'est pas le moment de détailler par rapport à ça. Pas du tout, bref, on ne va pas commencer là-dedans. Mais simplement, on peut comprendre que les disciples avaient du mal à rentrer dans la vision de Dieu. Ils n'avaient pas la lumière que nous possédons aujourd'hui, nous, avec les écrits du Nouveau Testament et le recul de 2 siècles. Mais cette lumière que nous avons aujourd'hui devrait nous pousser à témoigner autour de nous de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Notre responsabilité est beaucoup plus grande qu'eux. Et on ne peut pas dire, oui, mais tu vois, les disciples, il a fallu la persécution pour qu'ils évangélisent. Non, c'était un contexte bien particulier. Nous ne devrions pas avoir besoin de la persécution pour répondre à la mission de Dieu, à la mission de Jésus pour l'Église. La technique du coup de pied dans la fourmilière, vous connaissez ça? Vous n'avez jamais fait ça? Vous étiez gamin et même parfois un peu plus grand. Pour qu'elle soit trop grande, la fourmilière. Vous allez voir ce qui se passe, vous donnez un grand coup de pied, vous voyez toutes les fourmis qui se dispersent, la technique de la fourmilière. C'est un peu ce que Dieu a fait. Finalement, parce que les chrétiens étaient là, regroupés entre eux, louant, adorant. Et puis Dieu a été obligé, au travers du feu de la persécution, de donner un grand coup de pied dans cette fourmilière bénie qu'est l'Église. Hein. C'est une image, hein, parce que Dieu ne donne pas des coups de pied dans nos vies et dans l'Église. Loin de là, je précise. Hein. Mais au sens spirituel du terme, Dieu va parfois permettre que le feu de la persécution, de l'épreuve et autres puisse venir, afin que nous prenions conscience de notre vocation et de ce pourquoi nous sommes restés sur cette terre. Je dirai dans Jean 4, 35, ne dites-vous pas qu'il y a 3 mois avant la moisson. Voici, je le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il ajoutera, Luc 10, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est la préoccupation de Jésus. Quelle est ta préoccupation? Quelle est notre préoccupation en tant qu'Église? La préoccupation de Jésus, c'est la moisson. Il dira, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. il faut que je les amène. Alors ça ne parle pas exclusivement à notre église locale. Mais le Seigneur a d'autres brebis, non seulement les... À l'époque, c'est aussi dans le contexte de par rapport aux juifs qui étaient dans la bergerie et les non-juifs. Mais on peut largement extrapoler, sans détourner le sens, que Jésus a d'autres brebis dans cette ville, dans cette région. Et il veut qu'elles soient gagnées, qu'elles viennent dans la bergerie. C'est la préoccupation majeure de Jésus, en fait. Hein. C'est pas seulement que nous allions bien, que notre travail se passe bien, qu'on n'ait pas de petits bobos, que les enfants travaillent bien, etc. Oui, ça fait partie de notre vie. Et si on marche avec le Seigneur nous aidera au travers des épreuves et des difficultés de la vie. Mais il faut peut-être remettre les priorités là où elles sont. Que les priorités de Dieu, de Jésus, deviennent nos priorités. Si nous nous occupons du royaume de Dieu et de sa justice, alors il s'occupera de nous. C'est pas vrai? Peut-être sommes-nous trop occupés, trop préoccupés, trop écrasés par nos difficultés, par nos épreuves, par nos soucis, de telle sorte que le Seigneur nous laisse avec nos soucis et nos épreuves, et qu'il ne peut même pas nous aider, nous en sortir, tellement nous sommes accrochés à nos difficultés, à nos épreuves, et qu'on ne lâche pas le bâton. Le cœur des premiers disciples était bouillant, ils étaient zélés pour Christ. Ils avaient le cœur, ils avaient le feu, ils avaient la consécration, pas de doute quand on lit le début des Actes des Apôtres. Simplement, ce qui leur manquait, c'est la compréhension, c'est la vision du plan de Dieu pour le salut des païens. Et peut-être aujourd'hui, en ce qui nous concerne, ou en ce qui me concerne, et en ce qui concerne peut-être l'Église occidentale, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que nous avons toute la compréhension, nous avons tous les enseignements, nous avons la vision. Mais par contre, ce qui nous manque, c'est le feu de Dieu. C'est le cœur, un cœur rempli de Christ, bouillant. C'est peut-être ça qui nous manque le plus. Alors on peut compenser par toutes sortes de méthodes, par toutes sortes de stratégies, par toutes sortes de programmes. Et on va s'appuyer sur ces programmes, qui ne sont pas mauvais, loin de là. Mais l'Église et l'évangélisation ne peuvent pas se reposer sur quelques programmes, sur quelques leaders. On le voit au travers de cette... Les leaders sont restés à Jérusalem. C'est l'Église, vous et moi, qui ont dû se mettre au travail finalement et rentrer dans leur vocation. C'est les chrétiens anonymes. C'est nous. En fait, c'est chacun d'entre nous. Et tant qu'on attend des leaders, des programmes, des méthodes, le succès, entre guillemets, dans l'évangélisation, ben on pourra attendre longtemps. Et puis, il y aura des courants. Mais l'évangélisation dans le plan de Dieu ne peut pas reposer sur ces stratégies-là. Elle repose sur toi, elle repose sur moi. Elle repose sur l'Église. Et je dirais que c'est pour ça que l'épreuve, parce qu'ils étaient bouillants, zélés pour Dieu, c'est pour ça que l'épreuve a eu un effet boostant. Parce qu'ils étaient zélés, en fait, ça a eu comme un effet de détonateur. Et que c'est aussi pour ça que parfois dans nos vies, l'épreuve fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'elle nous arrête. Parce qu'il n'y a pas ce zèle, ce feu de Dieu. Eux, ils avaient simplement besoin d'être réorientés. Ce qu'ils faisaient à Jérusalem, il fallait qu'ils le fassent ailleurs. Mais quand on ne fait pas déjà à Jérusalem, on ne pourra pas faire ailleurs. Si tu ne témoignes pas autour de toi, si tu ne témoignes pas dans ton village, dans ta ville, n'attends pas que l'Église vienne. Si tu ne témoignes pas dans ton lycée, dans ton collège, dans ton travail, si tu n'as pas à cœur chaque matin de dire « Seigneur, je veux être un témoin, je veux que quelque chose paraisse de Christ dans ma vie, en parole peut-être, mais ou en tous les cas par mon attitude, par mon action, par mon sérieux, par ma différence de comportement. » S'il n'y a pas cette préoccupation-là, c'est pas la peine de me lancer dans des programmes d'évangélisation et dire « Oui, mais quand je serai ceci, quand tu auras tel programme, je... » Mais non, commence par ça. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est ça le cœur. C'est pas les stratégies, c'est pas les programmes. C'est le chrétien là où il est placé et qui a à cœur sa ville, sa région, son quartier, son boulanger et qui dit « Mais c'est ma responsabilité. Je dois pas attendre que le groupe d'évangélisation vienne dans ma ville. » Non, peut-être il reviendra, alléluia. Mais ce n'est pas là-dessus, ce n'est pas sur ce groupe-là que tu dois reposer, que doit reposer l'évangélisation et le salut de ton quartier ou de ta ville. Est-ce que tu pries tous les jours pour ton travail, pour tes collègues de travail? Il est dit, ils allaient de lieu en lieu. Finalement, à l'image du maître, acte 10, 38. Vous savez que Dieu, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Jésus allait de lieu en lieu. Pas de stratégie particulière. Ils n'ont pas dit, on va aller dans telle ville de plus de 5000 habitants parce que c'est ceci, après on va toucher, etc. On va... Non. Là où ils étaient, ils allaient de lieu en lieu. Ils étaient dans la fuite. Donc là où ils étaient, le temps qu'ils étaient, et peut-être étude de passage, mais là où tu es, rien ne t'empêche de distribuer des prospectives, de parler de Jésus. Et de faire connaître l'église locale où tu es. Peut-être es-tu en vacances, tu n'as pas besoin d'être là pendant 50 ans dans une même ville pour avoir à cœur le salut des gens qui sont là. Là où ils étaient, ils témoignaient de l'évangile. Pas de stratégie particulière, simplement là où ils étaient. Ils témoignaient, ils partageaient. Et c'est la même chose pour nous, là où nous sommes. Ayons à cœur aussi de témoigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, de vivre l'Évangile. Ils annoncent la bonne nouvelle de la parole. C'est quand même, la Bible est remplie de paradoxes, mais c'est étonnant parce qu'ils auraient pu annoncer de mauvaises nouvelles. Mais ils annoncent de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle. Il y avait eu un meurtre, une persécution terrible, peut-être plusieurs des membres de leur famille étaient en prison, et puis ce n'est pas les prisons comme on a aujourd'hui, les conditions... les respects des droits de l'homme, ils auraient pu pleurer et autres, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont ? Ils annoncent la bonne nouvelle, c'est un enseignement pour nous. Tu peux peut-être vivre des difficultés, des épreuves, et même pour Christ, mais ça ne t'empêche pas d'être colporteur de la bonne nouvelle de Jésus. Tu peux être assailli de mauvaises nouvelles, avoir dans ton cœur toutes sortes de tristesses, ça n'empêche que ta vocation sur cette terre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et le fait que tu vives de mauvaises nouvelles et que tu entends de mauvaises nouvelles ne doit pas te dispenser d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Parce que c'est ta vocation. La vocation, elle ne se résume pas à ceux qui sont sur l'estrade. Chacun d'entre nous avons une vocation devant Christ. Pas seulement être chrétien, mais être des témoins de Jésus. L'exemple de Philippe. L'exemple de Philippe, dans acte, toujours dans ce chapitre-là, verset 5, il est dit que Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules entières étaient attentives à ce que faisait Philippe avec les miracles et autres. Et puis verset 12, on l'a lu. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Mais quand on lit ça, on se dit « Mais qui est ce Philippe ? Qui est ce Philippe ?» Certainement, il doit faire partie de la liste des apôtres, de ceux qui ont côtoyé Jésus. Il a un ministère extraordinaire, ce Philippe. Comment se fait-il que j'en ai pas entendu parler ? Je vais regarder sur Internet, top chrétien, et voir s'il est bien connu, ou il est peut-être, c'est peut-être d'une église qui est en pleine expansion aux États-Unis, ou je ne sais pas, certainement. D'où sort-il ? Est-ce qu'il était une colonne de l'église de Jérusalem, un des 12 apôtres ? Non. On le voit dans acte 6, cet homme fait partie, d'abord c'était un chrétien lambda, qui a été choisi pour aider, pour suppléer au travail des apôtres, qui étaient débordés par tout cet afflux de chrétiens, de juifs qui se convertissaient, et donc il faisait un travail de diaconat. Il faisait partie des 7 qui ont aidé les apôtres, et qui ont permis aux apôtres de se consacrer plus spécifiquement à leur ministère, ce à quoi ils avaient été appelés. Donc à la base, c'est un diacre. Ce n'est pas un ministre de la parole. Il n'a pas forcément bénéficié des enseignements de Jésus, il n'a pas fait les écoles, il ne nous a pas dit qu'il ait fait les écoles rabbiniques ou autres, non. C'est un chrétien lambda, avec certes des caractéristiques particulières, parce qu'il est dit qu'il rendait un bon témoignage, c'était l'un des critères. Et c'était un homme plein de foi, un homme plein d'Esprit Saint et de sagesse. Donc on voit l'équilibre. Et ça a été le critère. Le fruit, finalement. Et que fait-il, cet homme ? Il ne peut pas sortir, il n'a pas fait d'études bibliques, d'école biblique et autres, mais simplement, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive dans cette ville. Il arriva dans cette ville et il s'y cacha. C'est ça ? Non, c'est pas dans ma Bible, c'est pas ça. Et il y prêcha le Christ, il aurait pu s'y cacher. Parce que entre les Juifs et les Samaritains, c'était quand même pas trop ça. Hein. Puis le vent de la persécution, il devait souffler bien fort, pas seulement à Jérusalem, mais probablement là aussi. Hein. Donc s'il prenait le risque de prêcher comme ça le Christ, devant des foules nombreuses, c'était aussi risqué pour sa propre vie. Étienne, il l'a payé de sa propre vie. Mais non, ça n'empêche. Il prêche le Christ. Il prêche le Christ. Mais quel enseignement extraordinaire. Je ne sais pas quoi dire. Je suis nouveau converti ou je suis timide. Mais quand tu as vu le match de foot et que tu as vu telle équipe qui a gagné, tu n'as pas de problème pour expliquer. En long et en travers. Quand tu as fait les soldes et que tu as acheté tel truc qui t'a plu ou que tu as ton dernier iPod ou iPhone et autres, tu n'as pas de problème pour expliquer et pour en parler. Et là, à ce moment-là, tu n'es pas timide. Mais quand il s'agit de parler de Christ, d'un coup, nos bouches, comme ça, c'est « Ah ben, j'arrive pas. Oh, je suis timide, je ne sais pas parler, tu comprends, etc. » Mais on n'a pas de difficulté à parler de quelque chose que nous vivons pleinement. On a même du mal à retenir. Quand vous avez une bonne nouvelle, vous avez du mal à la retenir. Quand vous vivez quelque chose de très fort, vous avez du mal à ne pas le partager. Quand vous aimez quelque chose de très fort, vous avez du mal à ne pas le partager. C'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un qui est passionné de pêche, par exemple, ce n'est pas mon cas. Quelqu'un qui est passionné de pêche, ben il va vous parler de pêche, c'est normal. Quelqu'un qui est passionné de sport, il va vous parler de sport. Quelqu'un qui est passionné par son boulot, ben tout va revenir sur son boulot. C'est normal quand on est passionné. Et peut-être nous, ce qui nous manque, c'est la passion de Christ. Ah, les passions, parce qu'il n'y a pas de neutralité. Les passions, on en a. Mais souvent, ce n'est pas la passion de Christ qui fait qu'on parle de nos passions, mais qu'on ne parle pas de la passion de Christ. On parle de nos préoccupations, mais on ne parle pas de la préoccupation et des préoccupations de Christ. Il y prêcha le Christ, rien de plus. En fait, il a prêché ce qu'il avait expérimenté et ce qu'il connaissait. Et il le connaissait très bien. Il le connaissait très bien parce qu'il le vivait pleinement. Il connaissait les réunions de prière. Il connaissait les enseignements de Christ, de la parole de Dieu. Il connaissait la recherche de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Et il la vivait, parce que c'était un homme plein d'Esprit Saint. Et effectivement, quand il a prêché Christ, des miracles, des signes se sont opérés. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et ça, il l'avait vécu, il le vivait individuellement, il le vivait au niveau de son église locale. Et alors, quand il partait, eh bien, il a prêché ce qu'il connaissait, Jésus simplement, il a prêché le Christ, ce qu'il connaissait, ce qu'il vivait de Christ. Qu'est-ce qui nous empêche parfois de prêcher, d'annoncer l'Évangile? C'est que parfois nous ne connaissons pas bien celui de qui nous devrions parler. Nous n'avons pas véritablement expérimenté. Nous parlons parfois de joie, de paix, de bonheur, de plénitude, etc., alors que nous ne les vivons pas vraiment. Alors on en parle entre nous, mais on a du mal à en parler à l'extérieur, parce qu'on ne le vit pas vraiment. Ce que l'on vit vraiment pleinement, on en parle. Vous savez, quand le collègue de travail, il est malheureux, il a eu une mauvaise journée, etc., il va vous en parler. Hein. Et puis nous, si on s'est mal levé le matin, les autres vont en entendre parler. Hein. Mais si on vit vraiment Christ, alors naturellement, on n'aura pas besoin d'avoir des gens pour nous booster. Témoignez de Jésus, allez, faites. Ça va se faire naturellement. Parce qu'on a vécu quelque chose à la base. Et peut-être c'est ce qui nous manque. Et je ne veux pas généraliser parce que on peut pas aller. Chacun, c'est individuel. Mais peut-être globalement. De nous dire, mais Seigneur, je ne vis pas vraiment Christ. Donc j'ai du mal à en parler. Et parfois, nos vacances sont plus parfois des vacances où on se repose de parler de Christ. On se dit, je fais une cure de réunion, je fais une cure de terminé, de c'est fini, là, je ne parle plus de Christ, hein, c'est fini. Là. Au moins, j'en entends plus parler, au moins, je fais une vraie coupure. Est-ce que c'est ça, les vraies vacances? Est-ce dans le sens, et dans le vrai sens du terme? C'est un temps de repos pour le corps, un temps où on peut être avec la famille, un temps où on fait des activités différentes. Mais ça doit être encore plus un temps, je me souviens. D'un couple d'un frère et de son épouse qui maintenant sont à la retraite et ils avaient déjà un certain âge et quand ils se réjouissaient de leurs vacances parce qu'ils disaient quand les enseignants les connaissent parce qu'on a travaillé ensemble en SNI et ils se réjouissaient de leur temps de vacances parce qu'ils disaient, là au moins, on va pouvoir prendre le temps pour étudier la Bible, pour faire des études, pour prier, etc. Vous voyez, pas pour dire je coupe avec la parole de Dieu, je ne lis plus, je ne prie plus, vous voyez, parce que le cœur était bouillant. Et ce qui est important aussi, c'est que Philippe n'a pas attendu une reconnaissance. Cet homme, d'abord, entre guillemets, n'était rien, dans le sens où il n'était pas connu, n'avait pas de titre. Ensuite, il était diacre, il servait aux tables. Il faisait un travail de comptabilité, il faisait un travail administratif. Mais il n'était pas ministre de la parole, il n'était pas étiqueté évangéliste ou apôtre. Mais ça ne l'a pas empêché d'annoncer Jésus. Mon frère, n'attend pas une reconnaissance. N'attends pas un titre pour servir le Seigneur, n'attends pas un titre, une reconnaissance pour parler de Jésus autour de toi. Et alors, si tu le fais, le Seigneur confirmera sa parole, parce que le Seigneur a confirmé sa parole par rapport à cet homme, Philippe, qui était un fidèle chrétien rempli de Dieu. Il a parlé, il a témoigné de ce qu'il vivait, de ce qu'il connaissait. On est rendu à un tiers du message, mais on va arrêter là parce que l'heure a déjà dépassé et les yeux vont commencer à se froncer. Et on est rendu à la deuxième page, il reste six pages. Il y en a six, mais c'est pas grave. En conclusion, donc. En conclusion. Les meilleurs programmes, les meilleures campagnes d'évangélisation, les plus grands évangélistes ne remplaceront jamais des cœurs qui sont entiers, bouillants pour Dieu, qui ont le feu en eux et qui communiquent le feu. Si vous prenez une boule de coton ou une boule de et vous l'achetez, elle va communiquer le feu. Et si nous sommes remplis du feu de Dieu, de Christ, alors nous communiquerons le feu. Sans programme ou autre, nous le communiquerons. Et les programmes seront là pour accompagner et pour aider. Rien ne remplacera des cœurs bouillants, de l'amour de Christ et rempli du Saint-Esprit. Dieu aime se servir de chrétiens lambda pour accomplir la grande commission, le salut des âmes. Alors, le dimanche dernier, pendant la scène, j'avais ce verset, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Dans acte 2, quand les Juifs entendent Pierre parler et leur expliquer que finalement ils sont responsables de la crucifixion de Jésus, mais que Jésus était mort pour eux et qu'il y avait possibilité de salut. Et ces hommes d'entendre le message de l'évangile, du salut en Jésus. Et parenthèse, Pierre n'avait pas fait les grandes écoles rabbiniques et autres, mais il avait été au pied de Jésus, il était rempli de la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus et de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Après avoir entendu cette parole, il dit « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Et je crois que c'est important quand on entend la parole de Dieu et que Dieu nous interpelle par son esprit, par sa parole, de dire « Mais Seigneur, je reconnais que là je ne suis pas. Mes priorités ne sont plus tes priorités. Je ne suis pas rempli de Dieu. Je ne suis pas tel que tu voudrais. » Et de dire « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Seigneur, je t'en supplie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de ma tiédeur. J'ai pris d'autres dieux, d'autres priorités. Seigneur, aide-moi à recentrer sur tes priorités. » Hommes, frères, que ferons-nous ? Et qu'est-ce que va dire Pierre ? Repentez-vous. C'est-à-dire, revenez de votre mauvaise voie. Prenez conscience que vous avez pris une mauvaise voie. Demandez pardon au Seigneur et revenez en comptant sur l'aide de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Ce n'est pas la force humaine, ce n'est pas la volonté. Autrement, c'est des coups de paille. On pousse, on motive, c'est comme au travail. Puis les gens font à reculons. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du cœur, un cœur rempli de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes. Et c'est à cause de ton amour que nous sommes là, Seigneur. Parce que tu as tellement aimé le monde, que tu nous as tellement aimés, que tu as envoyé ton Fils Jésus. C'est l'amour que tu avais dans ton cœur pour nous, pour les perdus, qui a fait que tu as donné ton Fils Jésus, Seigneur. Et nous aussi, nous voulons être animés de cet amour de Dieu, Seigneur. De dire comme l'apôtre, Seigneur, eh bien l'amour de Christ nous presse, et nous voulons aussi être pressés de cet amour de Christ. Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours, Seigneur. Oh, visite notre cœur, Seigneur. Visite notre cœur. Tu as la capacité de changer notre cœur de pierre en cœur de chair, Seigneur. S'il te plaît, oh Jésus, viens faire ton œuvre en nous. Amène-nous à la repentance. Fais-nous comprendre, Seigneur, ce que tu veux vraiment de nous, Seigneur. Remplis-nous de ton zèle, de ton amour. Seigneur Jésus, utilise-nous, utilise ton Église, Seigneur, pour le salut du plus grand nombre et pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen.